France Info.
Et à la une, Maureen, ce record battu pour un tableau de Frida Kahlo.
Un autoportrait de l'artiste vient d'être vendu près de 55 millions de dollars. Ce tableau devient le plus cher de l'histoire. Pour une œuvre peinte par une femme, un record pour une artiste du XXe siècle engagée pour les droits des femmes. Céder des territoires à la Russie, réduire drastiquement les effectifs de l'armée ukrainienne, installer des avions de combat en Pologne. Les détails du plan de paix américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine dévoilés ce matin. Porte close pour les antennes de SOS. Médecins à Roubaix, Tourcoing et Lille encore aujourd'hui après l'agression d'un médecin. Et puis du foot, encore du foot pour Canal+, qui s'offre les droits de toutes les compétitions européennes jusqu'en 2031.
Merci de votre fidélité, bienvenue dans le 6-9.
It's yours, thank you very much indeed, congratulations.
Des applaudissements pour une vente historique. Après avoir été laissé de côté pendant des siècles, les œuvres réalisées par des femmes ont maintenant toute leur place. Une peinture de l'artiste mexicaine Frida Kahlo vient d'être adjugée à près de 55 millions de dollars, pratiquement 48 millions d'euros. Cela en fait la toile la plus chère jamais réalisée par une artiste. Vente assurée par la maison Sotheby's à New York. Loïc Loury, il s'agit d'un autoportrait qui date de 1940.
Depuis 2014, c'est une œuvre de l'américaine Georgia O'Keeffe adjugée à près de 45 millions de dollars qui était la toile la plus chère jamais peinte par une femme. Hier soir, elle a été détrônée par un tableau de Frida Kahlo, El Sueño, la Cama ou le Rêve, la Chambre en français, parti à 54 600 000 dollars. Un autoportrait de 1940, comme l'artiste mexicaine en a peint des dizaines et sur lequel on la voit endormie dans un lit surmonté d'un immense squelette de papier mâché tenant un bouquet de fleurs, des bâtons de dynamite accrochés à ses jambes. Une œuvre énigmatique mais ancrée dans le réel, le squelette existait bel et bien au-dessus du lit de Frida Kahlo selon Sotheby's. La vente confirme en tout cas son statut d'icône du surréalisme, même si elle n'aimait pas y être rattachée, et de la pop culture.
Et le nom de l'acheteur n'a pas été dévoilé. Le tableau le plus cher du monde reste le Salvador Mundi attribué à Léonard de Vinci, vendu à 450 millions de dollars à New York en 2017.
France Info, 6h02, les contours du plan de paix américain se précisent.
Pour mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
Quelques points de ce plan ont déjà été dévoilés hier, mais on a plus de détails ce matin. Ce projet américain d'accord de paix qui filtre ces dernières heures dans les médias américains n'est ni finalisé ni définitif, mais il prévoit que les Ukrainiens cèdent des territoires.
Oui, dans ce plan en 28 points, il est question que l'Ukraine cède à Moscou au moins deux régions à l'est, celles de Donetsk et Lugansk, régions en partie sous contrôle russe, ce qui a toujours été une ligne rouge pour Kiev. Autre point sur le plan militaire, la réduction de l'armée ukrainienne à 600 000 personnes, soit deux tiers de son effectif, l'arrêt des livraisons d'armes par les alliés et surtout l'interdiction de troupes européennes au sol pour garantir la paix, comme le demande Kiev. Mais des avions de combat européens seraient postés en Pologne, les États-Unis promettant une réponse coordonnée des alliés en cas de nouvelle invasion russe. Voilà donc pour les garanties. Concernant l'avenir de l'Ukraine, Kiev pourrait adhérer à l'UE mais pas à l'OTAN. Un plan élaboré sans l'Ukraine et qui sur le papier semble gagnant pour la Russie. Le président Zelensky prévoit de discuter dans les prochains jours avec Donald Trump, alors que les Ukrainiens s'apprêtent à traverser un troisième hiver glacial sous les bombes et que l'armée russe continue d'avancer.
Mélodie Pépin pour les précisions en direct sur France Info. Les enseignants d'une école publique de Rennes seront en grève aujourd'hui. Ils veulent afficher leur solidarité avec leur directeur, qui est aussi enseignant dans cette école maternelle. Le père d'une élève est venu le menacer de mort le mois dernier. La famille refusait qu'un homme puisse enseigner à leur enfant. Les syndicats dénoncent un climat qui se dégrade dans les écoles. Les instituteurs qui ne sont pas les seuls à être confrontés à la violence, SOS Médecins sera fermé à Roubaix, Tourcoing et Lille aujourd'hui comme hier. Les praticiens veulent exprimer leur solidarité après l'agression de l'un de leurs collègues mardi en fin d'après-midi dans les locaux de Tourcoing. Il a été insulté et frappé par un homme. Sophie Morland, ses collègues parlent d'une expédition punitive.
Rien ne laissait imaginer de telles représailles après ce simple rappel à l'ordre dans la matinée à cette maman. Le médecin lui demande de contenir son enfant qui fait trop de bruit dans la salle d'attente, raconte Serge Bomoko, président de SOS Médecins à Roubaix-Tourcoing.
Elle n'a pas du tout accepté le reproche du confrère, lui disant qu'il fallait essayer de contenir l'enfant parce que ça faisait du bruit. Deux fois, mon confrère est venu la voir, le ton est monté et puis il a continué à faire ses consultations.
Pour le praticien, l'incident est clos, mais vers 17h45, un homme revient à accompagné de cette même maman. Au secrétariat, il dit avoir besoin d'un document après la consultation de ses enfants. Le médecin ne se doute de rien au départ. Quand il ouvre la porte, l'homme entre précipitamment dans son cabinet.
Tout de suite, le monsieur se jette sur le bureau. Il s'ensuit une agression physique parce qu'il va le chercher derrière. Il le balance, le pousse au sol avec des mots agressifs menaçant tout le monde et puis il s'en va.
L'homme s'est finalement présenté spontanément au commissariat où il a été placé en garde à vue mercredi soir. Quant au médecin, très choqué, il avait déjà subi une agression verbale cette fois il y a quelques jours. Ses collègues de l'antenne lilloise ont eux aussi cessé le travail en soutien. L'un de ses praticiens avait également été victime d'une expédition punitive en juillet dernier.
Sophie Morland, ici Nord pour France Info. Les dernières 24 heures de négociations à la COP30, la conférence de l'ONU sur le climat qui se déroule au Brésil. Plus de 30 pays menacent de bloquer un projet d'accord jugé faible sur les énergies fossiles. 80 pays, dont seule l'Union européenne, plaident pour une feuille de route pour sortir des combustibles fossiles, une ligne rouge pour certains pays producteurs de pétrole. Et c'est en pleine COP, boycottée par les États-Unis, que l'administration Trump annonce qu'elle va bientôt autoriser le forage de pétrole et de gaz sur des millions de kilomètres carrés dans les eaux côtières américaines.
Et pendant ce temps-là, Maureen, la France relance deux centrales à charbon.
Le moyen de production d'électricité le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il existe encore deux centrales en France et elles ont repris du service ce mois-ci. Ça a duré quelques heures pour celle de Saint-Avold en Moselle et plusieurs jours en ce moment même pour celle de Cordemay en Loire-Atlantique. Rien à voir avec la vague de froid, Lauriane Delanoë, il s'agit de tests pour voir si tout fonctionne.
Oui, ces deux centrales se préparent pour être opérationnelles cet hiver. Celle de Cordemay, en Loire-Atlantique, n'avait pas produit d'électricité depuis plus d'un an et elle sort d'une longue période de maintenance. EDF mène donc des essais pour vérifier son bon fonctionnement. L'une des deux unités de production tourne depuis lundi. Les essais sont concluants, d'après EDF, qui décide de la maintenir en service plus longtemps que prévu, jusqu'à ce week-end. Dès lundi, la seconde unité fonctionnera à son tour pour ses vérifications. L'autre centrale à charbon française, celle de Saint-Avold en Moselle, a produit pendant quelques heures lundi, là aussi pour des tests en vue de l'hiver, d'après son exploitant Gazelle Énergie. Ces essais sont nécessaires pour s'assurer de la disponibilité des centrales cet hiver. Mais pour l'instant, malgré le froid ces jours-ci, nous n'avons pas vraiment besoin de cette électricité à base de charbon. La France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme.
Et ces deux centrales à charbon peuvent fonctionner officiellement jusqu'en 2027. Canal+ signe un gros coup. Le groupe va continuer à diffuser les Coupes d'Europe de foot jusqu'en 2031. Alors on parle là de la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. C'est simple, Canal a remporté l'intégralité des droits pour le territoire français. On ne sait pas quel montant a été mis sur la table, mais Jean-Pierre Blimaud, ce n'était pas gagné face à la concurrence des plateformes internet.
En 2022, le groupe Canal+ effectuait son grand retour sur la scène du foot européen. Cette année, il acquiert de nouveau l'intégralité et l'exclusivité des droits de retransmission. Il pourra donc choisir, par exemple, les meilleures affiches de Ligue des Champions les mardis et mercredis soirs. Le résultat de cet appel d'offres est d'autant plus important que pour le groupe Canal, les compétitions internationales sont désormais une priorité. Même si le groupe diffuse le championnat de France féminin de football ou encore le top 14 de rugby, la première ligue anglaise, les grands prix de Formule 1, de moto ou les grands rendez-vous de golf et même de MMA sont les têtes de gondole. C'est aussi un joli coup car Canal+ était de nouveau en concurrence avec les acteurs récemment arrivés sur le marché comme les plateformes internet. Le paradoxe, c'est que le groupe Canal aurait payé un peu moins cher que lors du dernier appel d'offres. On sait que pour celui-ci, Canal+ et ses chaînes dépensent chaque saison 480 millions d'euros.
Et du côté du championnat, place à un derby bouillant pour l'ouverture de la 13e journée de Ligue 1 ce soir. L'OGC Nice reçoit l'OM dès 20h45. Les Marseillais sont à 2 points du PSG leader et à l'occasion, ils pourraient prendre la tête provisoire du championnat ce soir.
Merci à vous Maureen Suignard. Christine Peña, petit point neige, tiens. On avait un de nos chroniqueurs... Alors les températures, oui. On avait un de nos chroniqueurs tout à l'heure, Emmanuel Cuny, qui nous disait qu'en région parisienne, il neigeait ce matin. Et en Seine-et-Marne, il est arrivé, il nous disait ça neige.
Oui, ça neige et ça tient un peu au sol. On a les sols qui peuvent blanchir un peu autour de Paris. On a quelques petites
cette floconnade, effectivement, qui tombe. Ça se maintiendra à l'intérieur du pays. En fait, vous voyez la carte, près de la Méditerranée, le long de la façade atlantique. En fait, on est encadré, la Manche et puis les frontières du Nord. Là, le soleil arrivera à apparaître et là, le temps sera sec. En revanche, à l'intérieur du pays, on a vraiment cette masse nuageuse très intense, très dense, qui se maintient et qui donne quelques flocons par endroit. Alors, beaucoup plus de précipitations en montagne, sur les Alpes du Nord d'ailleurs, et sur la partie centrale des Pyrénées, avec un bon vent d'ailleurs en Méditerranée.
Les températures quand même, vous y tenez.
3 à Lyon cet après-midi, à Clermont-Ferrand 5, à Paris comme à Toulouse et à Tarbes.
Ah oui, c'est pas chaud chaud.
Ah oui, on reste dans le congélateur.
Merci Christine.